Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Glyphosate, c'est un mot dont on devrait vraiment se méfier. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, alors que l'Union européenne venait à nouveau de l'autoriser pour une période de 5 ans. Le glyphosate, c'est quoi? Mais c'est l'ingrédient clé, en fait, du fameux Roundup, le pesticide le plus utilisé au monde, commercialisé par la compagnie, le géant de l'agroalimentaire Monsanto, qui était autrefois, d'ailleurs, c'est toujours bon de le rappeler, une compagnie pétrochimique. Le glyphosate, c'est aussi le pesticide le plus vendu au Canada. C'est l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire qui le confirme. Du glyphosate, là, on en retrouve dans à peu près 30 % des produits qu'on mange. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous en parlais il y a quelques mois. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'alors que les Européens ont finalement statué, après beaucoup de discussions, sur 5 ans, ce renouvellement donc d'utilisation, chez nous au Canada, pour des raisons assez... finalement douteuse, trouble, on sait pas trop pourquoi. C'est 15 ans, pas 5 ans, 15 ans d'utilisation. On vient de décider ça. Alors, moi, je suis même allée voir, il y a un document qui a été fait par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, où on nous parle, c'est un rapport d'enquête qui a été fait par la Direction des sciences de la salubrité des aliments, où j'essayais de comprendre pourquoi et si les niveaux, les résultats, les niveaux de glyphosate dans les aliments qu'on mange étaient importants ou sous les limites. C'est assez trouble. En fait, c'est un document de 4 pages. On aurait espéré plus. Avec moi, Marie-Monique Robin, elle est journaliste, elle est réalisatrice. Elle vient de publier un livre, Le Roundup face à ses juges. Merci, Marie-Monique Robin, d'être avec nous.
Bonjour.
On vous a déjà reçu plusieurs fois parce qu'on peut dire que depuis plusieurs années, vous vous êtes beaucoup intéressée à Monsanto.
Ouais.
Vous les lâchez pas, comme on dit ici. Là, cette fois-ci, vous parlez du Roundup face à ses juges. Pourquoi juges? Parce qu'il y a eu un procès, une espèce de faux procès, mais avec des vrais juges, où on s'est intéressé véritablement au glyphosate. Rappelez-nous un peu le contexte. Pourquoi votre intérêt sur le glyphosate en particulier?
J'avais déjà fait Le Monde selon Monsanto, qui était un film et un livre qui ont beaucoup circulé ici, y compris. Le livre est traduit dans 25 langues. Il est sorti ici chez Stanquet il y a 10 ans. C'est la première fois qu'on s'était rencontrés.
C'est vrai.
Et puis après, j'avais fait Notre poison quotidien. Vous m'aviez aussi reçu. Enfin, j'ai fait toute une série de films. Et à un moment, on est venu me voir à Paris pour me parler de cette initiative de monter un tribunal contre Monsanto qui permette à toutes les victimes présumé dans le monde, de se rencontrer et d'être entendu par de vrais juges, vous venez de le dire. C'était donc le tribunal international Monsanto qui s'est tenu à La Haye, en Hollande. La Haye, je rappelle, c'est la ville où il y a la Cour pénale internationale. Et on m'a demandé de soutenir cette initiative. Et du coup, je me suis dit, il faut filmer tout ça parce que c'est étonnant. Et ce fut étonnant. D'ailleurs, on en reparlera peut-être. Ce fut vraiment étonnant. Et ces juges ont vraiment rendu un avis juridique d'autorité qui a une valeur juridique.
Et quel était cet avis?
Eh bien, cet avis, c'était que Monsanto, par son comportement et notamment par l'utilisation du glyphosate sur lequel on va parler aujourd'hui, n'agit pas en conformité, je reprends les mots des juges, avec tous les droits humains reconnus par les conventions internationales, qui sont le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à la recherche scientifique et le droit à l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est plutôt prospectif, c'est-à-dire que il y a un courant juridique actuellement, porté aussi par des ONG, qui voudrait qu'on reconnaisse un nouveau crime, n'est-ce pas, qui serait le crime contre les écosystèmes, qu'on appelle l'écocide. Une nouvelle figure pénale qu'on aimerait voir émerger pour faire face à tous ces grands dérèglements qui sont actuellement en cours sur notre planète.
Une espèce de génocide écologique, finalement. Voilà. Un écocide.
Voilà, ouais. Tout à fait. Éco, vous savez, c'est la maison, en grec, et cide, c'est tuer. Donc, ce sont des crimes qui tuent la maison commune, pour reprendre d'ailleurs l'expression du pape François qu'il a utilisé dans son encyclique. Je trouve assez joli, la maison commune qui est en danger. Vous voyez.
Ouais. Et pourquoi? Parce que ce fameux Roundup, vous en aviez parlé d'ailleurs dans votre documentaire et dans votre livre Le Monde selon Monsanto. Je disais tout à l'heure que c'est un géant de l'agroalimentaire, Monsanto, qui d'ailleurs vient d'être acheté par Bayer.
C'est pas encore confirmé.
Ça devrait être confirmé.
Voilà,
je pense pas que ça... Pour une somme assez importante, 81 milliards de dollars canadiens l'année dernière, en 2016. Ouais. Et on dit qu'avec Bayer et Monsanto, pourraient contrôler ou sont en train de prendre le contrôle de la chaîne alimentaire mondiale.
Tout à fait. Donc justement, c'est pas encore confirmé pour une raison très précise, c'est que la Commission européenne, mais aussi aux États-Unis, on doit vérifier qu'il n'y a pas une création de monopole, ce qui est quasiment sûr. Il y a un monopole, parce que Monsanto plus Bayer égale gros monstre de l'agroalimentaire. Et dans ce cas-là, il faut prévoir des mesures qui permettent de réduire ce monopole. C'est pour ça que ce n'est pas encore confirmé. Mais ce qui est sûr,
mais est-ce que vous pensez que ça ne se ferait pas?
Il est possible qu'ils disent, c'est ce qu'on attend en Europe, on doit avoir la réponse en avril, ils vont dire, bon, vous êtes un petit peu trop gros, donc il faudrait peut-être que vous débarrassiez de telle filiale, ça sera un peu, vous voyez, soporifique, hein, mais parce qu'on est en face d'un monopole. Un monopole qui contrôle toute la chaîne alimentaire, de la semence jusqu'à l'assiette du consommateur, mais avec en plus des médicaments, parce que Bayer, c'est aussi un fabricant de médicaments, qui permettent de soigner les agriculteurs rendus malades par les pesticides utilisés, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est un business très, très juteux. Alors là-dedans, évidemment, le Roundup...
Oui, c'est autosuffisant, parce que dans le fond, on soigne des gens qu'on a nous-mêmes rendus malades comme entreprise. C'est assez fascinant. Ouais. Mais chez nous, au Canada, c'est... on a vu en Europe, on a renouvelé pour 5 ans. Ouais. Ça a failli ne pas passer. Le vote de l'Allemagne a été très important. Tout à fait. Est-ce que le fait que Bayer, ça soit allemand, ça c'est joué?
Alors, ça n'est pas du tout exclu, parce que ça a été une grande surprise. Parce que, effectivement, contrairement à vous, ici au Canada, y compris au Québec, il n'y a absolument pas eu de débat démocratique autour de la réautorisation de l'herbicide le plus vendu au monde, les herbicides à base de glyphosate, dont le Roundup. En Europe, ça a été une bataille, mais absolument inouïe. On n'avait jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire à la fois les grands médias sérieux, Le Monde, etc., qui ont révélé beaucoup de choses, hein, dont les fameux Monsanto Papers, absolument passé inaperçu ici, ou très peu commenté, qui montrent comment Monsanto manipule, fait ce qu'on appelle en anglais du ghostwriting, trouve des scientifiques, hein, n'est-ce pas, dans des universités, et qui acceptent de signer des articles écrits par Monsanto pour dire tout le bien qu'ils pensent du glyphosate, par exemple. Hein. Tout ça est fondé sur la déclassification de milliers de documents internes à la suite d'une action collective dont je parle dans le film et dans le livre, hein, parce que je suis cette action collective depuis le début, de 3500 agriculteurs nord-américains qui ont utilisé du Roundup, notamment sur les cultures transgéniques, comme ici au Canada, vous savez qu'il y a des millions d'hectares, hein, d'OGM manipulés génétiquement pour pouvoir justement tolérer les épandages de glyphosate ou de Roundup, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche un OGM. Et donc 3500 agriculteurs américains qui ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle un lymphome non-Hodgkinien. C'est une forme de leucémie, pour faire simple. Et l'Organisation mondiale de la santé, à travers le Centre international de recherche sur le cancer, a classé en 2015 le glyphosate comme cancérigène probable pour les humains, avec un corpus d'études scientifiques très solide qui montre le lien, notamment, entre le glyphosate et le lymphome non-Hodgkinien. Donc 3500 agriculteurs américains, c'est pas rien. Et à l'occasion de cette action collective, eh bien, les avocats que j'ai interviewés, ils sont dans mon film, ils sont dans mon livre, ont demandé à un juge californien de rendre public les documents déclassifiés internes de Monsanto, et c'est ce qu'a fait le juge. Et tout ça est accessible maintenant sur un site internet de US Right to Know, qui est une ONG californienne. Et c'est très troublant, c'est ce qu'on appelle les Monsanto Papers. Là, on voit très clairement comment Monsanto sait depuis très longtemps que son produit est cancérigène. Moi-même, j'ai eu accès au dossier d'homologation. Il y a 2 études que j'ai pu consulter, faites par Monsanto en 1981 et 1983, qui montrent que c'est cancérigène. Ils savent que c'est tératogène, c'est-à-dire que ça provoque des malformations congénitales, comme on le voit largement dans mon livre aussi.
Mais c'est un herbicide.
Oui, c'est un herbicide, mais si vous êtes exposé enceinte, hein, comme on le voit dans mon
donc
livre.
Donc c'est un produit chimique.
Voilà, mais vous passez de... On voit dans mon livre, par exemple, une maman qui ne savait pas qu'elle était enceinte et qui avait un manège pour chevaux, parce qu'elle a une agence qui organise des randonnées, vous voyez, à cheval, et elle désherbe son manège avec un herbicide à base de glyphosate. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. 9 mois plus tard, elle donne naissance à un enfant qui a de graves malformations congénitales. Eh bien, elle a porté plainte aujourd'hui contre Monsanto, d'ailleurs, et les fabricants de glyphosate. Eh bien, des études de Monsanto, de la firme elle-même, montrent que ce produit est tératogène. Ça veut dire quoi, tératogène? Ça veut dire que si on exposait une utéro, au début de la grossesse, ça provoque des malformations congénitales.
J'allais justement... ici, on a beaucoup de problèmes d'allergies alimentaires. Oui. Là-dessus, j'avais trouvé un article intéressant ce week-end sur justement des... Puis ça disait des tests intenses, extensive testing, confirment que finalement, les organismes génétiquement modifiés ne sont pas la cause d'allergies alimentaires. Et quand on parle de Roundup ou de glyphosate, on sait qu'il y en a aussi, bon, il y en a dans beaucoup de produits OGM. Et quand je regarde qui a écrit ça, là, je voyais plein de noms de médecins. Mm-hmm. Et quand j'ai été voir sur LinkedIn qui étaient ces médecins, mm-hmm. Le premier nom est celui de Lisa Dunn, qui est Medical Science and Outreach Lead de Monsanto.
Ben oui, voilà, bien sûr.
Et là, je me dis, même, puis ça ne m'a pas pris de trois ans, une grosse enquête de faire ça, en 10 minutes, ils ne se cachent même pas, la rigueur. Oui. Ça veut dire qu'ils ont comme une espèce d'impunité. Il doit toujours bien y avoir des gens comme chez nous, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Santé Canada. J'imagine que les gens savent cette dangerosité. Comment ça se fait que dans 30 % des produits qu'on mange ici au Québec, il y a du glyphosate dedans?
Ah oui, 30 % à mon avis, vous êtes même au-dessous de la vérité. Hein, parce que d'abord, il faut savoir que la situation du Canada doit être très proche de celle des États-Unis. Moi, j'ai surtout travaillé sur celle des États-Unis où je suis allée, j'ai rencontré des spécialistes, etc. Il faut savoir que le glyphosate, il est partout. Il est dans l'eau, partout dans l'eau. Hein, et dans des pays comme le Canada où on arrose soit avec des épandeurs terrestres ou par avion sur des millions d'hectares, évidemment qu'il est dans l'eau, c'est l'un des principaux contaminants de l'eau et il y a des données très précises aux États-Unis qui montrent ça. Il est dans les aliments, il est dans les sols, il est dans l'air. Hein. Donc si vous lisez mon livre, vous verrez des études très sérieuses aux États-Unis qui montrent ça. Alors pourquoi c'est inquiétant ?
Je l'ai lu votre livre.
Non, ce qui est inquiétant, parce qu'en fait il y a deux choses qu'on ne dit jamais, Isabelle, et je me permets de le dire, et que les agences de réglementation nient ou ignorent. Voilà, à décider quel mot on emploie. Hein. Si on nie, ça veut dire qu'on sait, on ne dit pas. On ignore, ben, parce qu'on ne fait pas bien son boulot. Et voilà. La première chose, c'est que ce n'est pas Monsanto qui a eu le premier brevet sur le glyphosate. On pense tous que c'est Monsanto. Non. C'était en 1964, c'était une autre multinationale américaine qui a eu ce brevet sur cette molécule. Pourquoi ? Parce qu'elle a une fonction absolument méconnue, et pour moi qui, à mon sens, est très grave. C'est ce qu'on appelle un chélateur de métaux. Alors, n'ayez pas peur. Ça veut dire quoi ? C'est qu'elle est capable de séquestrer les minéraux et les métaux qui sont dans l'environnement, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau. Donc, la première utilisation du glyphosate, ça a été pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. Vous vous rendez compte ? Et donc, ça veut dire qu'évidemment, elle continue cette fonction, la molécule, de chélation de métaux quand elle est dans les sols. Donc, quand elle est dans les sols, on voit, je suis allée aux États-Unis par exemple, où des agriculteurs américains veulent arrêter les OGM parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont plein de maladies dans les champs avec le soja et le maïs. Ils ne savent pas pourquoi. Et l'une des raisons, c'est que le glyphosate, une fois qu'il est dans les sols, il séquestre les minéraux, justement, qui sont bons pour la plante. Et du coup, ils ne sont plus disponibles pour la plante. Et du coup, ça rend les plantes malades. Mais c'est pareil pour nous.
Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde au Canada et au Québec en particulier. Au Canada, là, je vous disais, là, j'ai été voir le document de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur le dépistage du glyphosate en 2015-2016. Ça, c'est le rapport d'enquête que j'ai devant moi, où on évalue les résultats. Alors là, on a testé différents échantillons de céréales, orge, sarrasin, quinoa, des échantillons d'aliments pour nourrissons également. On a testé des haricots, des pois, des lentilles, des pois chiches, du soja. Et ce qu'on dit, c'est que là, on voit les concentrations de ce que je vois. Moi je suis végétarienne. Alors, je mange beaucoup de pois chiches, beaucoup de... Il y a beaucoup de Québécois. Moi, je leur dis toutes les semaines, mangez plus de légumes.
Et de protéines végétales.
Et là, je regarde le soja, 20 ppm.
Énorme.
Alors, le pois, 5 ppm. Les lentilles, 4 ppm. Les haricots, y compris les pois chiches, 4 ppm. Oui. L'orge, 10 ppm.
Voilà.
Là, je me dis, ils vont peut-être dire, est-ce que c'est trop? Est-ce que je suis en train de m'empoisonner?
Alors, le soja à 20 ppm, ça, c'est très intéressant parce que ces ppm, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, ce sont des normes. D'accord? Il y a des normes qui disent que...
Parties par million.
Mais bon, voilà, c'est ça. Et qui disent, si vous ne passez pas tel seuil, il n'y aura pas de problème. Alors, le soja, c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, je raconte dans mon livre comment... Avant l'introduction des OGM, donc, et notamment du soja résistant au glyphosate, comme il y en a plein au Canada, la norme était à 0,1 mg par kilo. Et on l'a multiplié pour atteindre 20 mg par kilo au moment de l'introduction des OGM. Vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout scientifique. On a changé la norme parce qu'on savait que comme on allait utiliser beaucoup plus de Roundup qu'avant, parce qu'il y avait des OGM qui sont faits pour être arrosés de Roundup, on a changé la norme. Et là, bien sûr, ils vont vous dire quoi, Santé Canada ? Ils vont dire, c'est bien, on est juste au niveau de la norme. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de danger. C'est faux.
Mais moi, c'est cette norme-là que je veux débattre.
Ben bien, c'est ce que je vous dis. C'est absolument faux. On l'a changé sans aucune étude scientifique. On l'a changé pour s'adapter aux pratiques agricoles liées aux cultures transgéniques. Et moi, j'ai rencontré un scientifique à Londres, Michael Antonio, du King's College de Londres, qui a montré que des rats qu'on nourrit avec des petites doses de glyphosate dans de l'eau pendant toute leur vie, eh bien, à des doses qui sont, tenez-vous bien, 70 000 fois inférieure à ce qu'on appelle la dose journalière acceptable, cette fameuse norme.
Ce qu'on appelle au Canada le LMR, c'est-à-dire la limite maximale de résidus.
Voilà, limite maximale de résidus, c'est lié à la dose journalière acceptable.
Ouais.
Voilà. Et eh bien, à des doses 70 000 fois inférieures, ces rats développent par exemple des troubles du foie très graves. On appelle ça une stéatose hépatique. Ouais, ouais. On appelle ça la maladie du foie gras, qui peut dégénérer en cancer du foie, etc. Donc, on voit bien que ces normes sont beaucoup trop élevées, j'y arrivais, et qu'il faut absolument reprendre ce dossier. Et moi, je dis que face à toutes ces, enfin, les caractéristiques.
Mais je veux dire, on nous niaise là.
Bien sûr, hein,
parce que bien on sûr. Se fout de nous. Là.
Oui.
Parce que dans le document que j'ai, puis là on dit attention, finalement ces résultats-là ne sont que finalement c'est embryonnaire, puis vous pouvez pas vraiment vous y fier parce qu'on n'a pas assez testé de produits, d'échantillons. N'empêche que quand je vois céréales pour nourrissons, les gens qui nous écoutent, si vous avez des bébés là, 82 échantillons analysés, 31,7% des échantillons ayant des résidus de glyphosate. Mais après on nous dit 0% avec des taux
qui dépasse
la norme.
Mais oui, mais il faudrait savoir que cette norme.
Leur norme, là, comprenez-vous, je la veux même pas. Là.
Ben,
je veux zéro.
Ben, bien sûr, c'est normal.
Est-ce qu'on peut avoir zéro de glyphosate?
Les études, c'est très intéressant. En Allemagne, il y a une étude qui a été faite sur 2000 citoyens allemands qui ont accepté de faire pipi dans un flacon, comme moi j'ai fait dans une étude en France. Le résultat en France, comme en Allemagne, c'est que tous les citoyens qui avaient fait pipi dans un flacon avaient tous des résidus.
98%, j'ai vu ça.
Avec des taux qui sont en moyenne 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Mais quand même, on note que ceux qui ont le moins de résidus, j'en faisais partie parce que moi, je mange bio à la maison, mais qu'à la maison. Quand je sors ici, par exemple, je suis à Montréal, je ne vais pas dire « Ah non, je ne vais pas manger, ce n'est pas bio » parce que dans ce cas-là, je ne mange plus. Donc, voilà. Et donc, très clairement, ceux qui mangent bio ont beaucoup moins de résidus de glyphosate dans leurs urines que ceux qui ne mangent pas bio. Déjà, c'est une première chose.
Ouais.
Et les gros mangeurs de viande ont aussi beaucoup de résidus de glyphosate. Pourquoi ? Parce que ceux qui mangent beaucoup de viande ne mangent pas de viande bio, ils mangent de la viande des élevages industriels qui sont nourris avec du soja transgénique ou du maïs transgénique arrosé de glyphosate ou de Roundup, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec beaucoup de
c'est
résidus.
Épouvantable.
Voilà.
Après ça, on va nous faire croire que c'est notre stress personnel qui fait qu'on a le cancer.
Ben oui, bien sûr. Le cancer, les allergies. Vous savez, moi, j'ai filmé un colloque à Chicago qui montrait à travers différentes interventions scientifiques qu'il y a certainement un lien entre l'exposition au glyphosate in utero et la progression de l'autisme, par exemple. Donc, ça ferait partie d'un cofacteur. Eh bien, c'est très inquiétant, bien sûr.
Ouais. On va s'arrêter ici. Je suis en compagnie de Marie-Monique Robin. Elle vient de publier le Roundup face à ses juges. Inutile de vous dire que je vous recommande chaleureusement cette lecture. Louise Vandelac, sociologue chez nous, a fait une préface très sentie et qui nous situe bien, nous ici, au Québec, au Canada, comment justement tout ce discours-là est ignoré par les instances gouvernementales. Si vous voulez intervenir, est-ce que ça vous inquiète, premièrement? Est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire l'utilisation de ce pesticide qui est présent dans le tiers au moins de nos aliments ici chez nous? 514-790-9850, 1-866-790-9850. J'aimerais aussi entendre des agriculteurs, parce que je sais que certains agriculteurs vont dire aussi, puis on a entendu beaucoup d'Européens le dire, mais si on n'utilise pas de pesticides, d'herbicides Roundup, comment voulez-vous qu'on y arrive contre les bébites qui mangent nos cultures? Il y a ça aussi, ce discours-là, il faut quand même l'entendre. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? On va en parler avec notre invité tout de suite après, et après vos commentaires, bien sûr. On parle du glyphosate. Vous savez que c'est un dangereux pesticide qui est présent dans le tiers au moins de nos aliments ici au Québec, au Canada. On va en parler avec des auditeurs. On a Sylvain avec nous. Bonjour.
Bonjour, Madame Isabelle. Ça va bien?
Oui, allez-y, on vous écoute, Sylvain.
OK, moi, je suis en beau fusil, là. Excusez l'expression, là. Ça fait des années, là, il y a quelques années, là, il y avait eu des pressions au gouvernement pour qu'ils puissent identifier là, au marché là, les OGM.
Ouais.
En Europe, c'est comme ça. On peut avoir le choix. Puis ici, on n'a pas le choix. Là, je me demande, là, on est en train de se faire empoisonner. Nos gouvernements, ils font rien. Ils suffisent sur leur... comme vous disiez tantôt, sur les docteurs qui font des expériences là-dessus, qui donnent ils appartiennent aux compagnies. Fait qu'elles sont pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est aberrant. Là. Il devrait avoir des poursuites, là, dans le fond, contre le gouvernement. Quand nos bébés viennent au monde, là, on est en train de les empoisonner, ils viennent au monde, là, ça n'a pas d'allure. Là. Comment ça se fait que On est tombé une société de moutons. Comment ça se fait qu'on laisse faire ça? Là? C'est de plus en plus aberrant.
Mais parce
là,
que souvent, on est pas, vous avez raison, Sylvain, souvent, c'est parce qu'on n'est pas au courant. Là, heureusement qu'il y a des personnes comme Marie-Monique Robin, mon invitée, qui nous tiennent au courant. Heureusement que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble, pour au moins être un peu plus conscient de ce qui se passe, de ce qu'on essaie de nous passer dans notre assiette pour ensuite pouvoir voter en conséquence. Mais il n'y a jamais de parti politique qui parle de ce problème-là. Hein? Jacqueline est avec nous. Bonjour, Jacqueline.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir si j'achète toujours sans OGM. Est-ce que je suis assurée que c'est sans OGM?
Mais déjà, il faudrait que ce soit marqué parce que comme le dire Sylvain, chez nous au Québec, il y a très peu de produits. Non. Il n'y a pas d'étiquetage obligatoire.
Ouais. Nous, c'est en Europe, c'est
non, mais moi, quand je vois là, sans OGM.
Est-ce qu'on peut s'y fier? C'est ça votre question.
C'est ça.
Oui. Bien, Madame Robin, je ne sais pas si vous êtes au courant des lois ici, mais en tous les cas, je sais qu'en fin de semaine, il y avait un article là-dessus où on parlait justement des logos faits au Québec, vous savez. Bon, puis on disait que quand c'est marqué OGM et que c'est le logo officiel sans OGM, il faut suivre les logos officiels, bien sûr. Mmh. Si vous voyez des logos qui ont l'air d'être un peu patentés par une entreprise, et ça se vérifie très bien. Mais Qualité Québec, par exemple, ça, vous pouvez vous y fier. Sans OGM, normalement, on peut s'y fier. C'est comme le logo organique ou bio. Mmh. Marie-Monique Robin, quand c'est marqué dessus, on peut...
Ah bah oui, il y a des organismes certificateurs, ouais, quand même, qui sont là pour certifier que c'est bien
mais,
bio.
Mais il faut faire attention, parce que des fois, ils se font une petite feuille verte.
Oui, puis
c'est
pas vrai.
Puis c'est pas tout à fait le logo, fait que c'est mêlant pour le consommateur. Ouais. On a Joanne avec nous. Bonjour, Joanne.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question concernant le tofu. Est-ce que c'est vraiment safe, c'est vraiment correct pour le tofu? Parce que j'ai entendu parler que c'était pas fameux de manger du tofu.
C'est du soya, effectivement.
Alors, ouais, mais le tofu, c'est très bon. C'est une protéine végétale. Et ça, moi, j'utilise beaucoup dans la cuisine, soyeux ou pas. Enfin, voilà. Mm-hmm. Mais il faut prendre du soja, évidemment, bio. Mm-hmm. Ah vraiment, clairement. Il faut trouver du tofu avec du soja bio. Parce que si vous prenez du tofu fait avec du soja bourré de glyphosate et de Roundup, alors là, franchement, à éviter vraiment. Hein, parce que c'est vraiment le soja, l'une des plantes les plus, quand elle est pas bio, arrosée de Roundup, parce que c'est transgénique et donc c'est fait pour ça. Hein. Ouais. Vous avez vu 20 mg par kilo, c'est la norme qui est autorisée, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà. Donc tofu, oui, mais tofu bio.
Jocelyn, bonjour.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Ça va, merci.
Okay. Moi, si
un peu découragé tout de même, mais ça va.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas découragé parce que je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Je vais vous expliquer assez rapidement. Je me souviens, là, il y a quelques années, le tabac, si on prend l'exemple, même personne n'était capable d'empêcher compagnie, autrement dit, de vendre du tabac.
Ouais.
Puis avec on s'est rendu compte à un moment donné que ça rapportait plus, ça veut dire que ça rapportait moins le tabac que ce que ça coûtait comme frais de santé. À ce moment-là, c'est là que ça a changé.
Mais pensez-vous qu'on l'a interdit pour autant? Non, on ne l'a pas interdit.
Bien sûr, parce que les taxes du tabac, là, ça payait, autrement dit, une partie, autrement dit, des frais de santé. On calculait à l'époque, si je me souviens bien, ça rapportait 8 milliards, puis les frais de santé coûtaient 7 milliards qu'on associait au tabac. Puis à un moment donné, il y a eu l'inverse qui s'est passé. Puis je pense qu'il va arriver exactement la même chose au niveau des produits chimiques. C'est quand les gouvernements vont se rendre compte que ça coûte plus cher de frais de santé, parce que c'est malheureux, mais c'est toujours une question d'argent, hein?
Ouais.
La santé, souvent, ça passe en deuxième. Mais quand l'argent rentre en ligne de compte, c'est là que les choses changent. Moi, ça m'encourage à ce niveau-là.
Ouais. Marie-Monique Robin?
Moi, je ne partage pas vraiment votre optimisme, en fait, hein, parce que c'est ce qu'on appelle en économie les externalités, hein, c'est-à-dire les coûts qui sont engendrés par exemple un produit chimique, etc. Mais c'est aussi du business, ça.
Ouais, complètement.
Et donc, y compris le fait qu'il y ait de plus en plus de cancers, etc., ça rapporte de l'argent à un secteur qui est le secteur, l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, c'est, malheureusement, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut plutôt viser la mobilisation citoyenne des gens qui exigent de leurs élus de prendre les bonnes mesures. Nous, en Europe, on s'est beaucoup battu pour l'interdiction du glyphosate. Donc, finalement, on a obtenu 5 ans, mais on était parti pour 15 ans de réautorisation. Et on va y arriver. Donc, je pense que les citoyens doivent s'adresser à leurs élus pour dire stop, nous, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de produits chimiques qui sont cancérigènes, tératogènes, etc., etc., dans nos assiettes.
On a Zoé avec nous. Bonjour Zoé, comment vous voyez ça?
Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai deux points à apporter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mon premier étant que, en tant que citoyen, c'est bien beau parler, c'est bien beau de chialer contre le gouvernement, c'est ça, mais en tant que citoyen, on peut prendre le devoir par notre pouvoir d'achat chaque jour, qui est un pouvoir quand même très important, d'acheter de manière consciente, locale, biologique. Puis, c'est pas vrai que c'est trop cher, là. Il y a vraiment beaucoup de moyens maintenant ce soit très accessible, en acheter avec des groupes d'achat tels Nourrir, qui est un groupe d'achat de plus en plus populaire, uniquement biologique, avec des familles de famille autour. Il y a vraiment manière là, de s'informer autour de nous, puis que ce soit pas trop cher. Et au, justement, de couper dans d'autres dépenses qui sont inutiles et de prioriser notre santé.
Ouais. Merci, Zoé. Fait... Oui, vous vouliez rajouter?
Oui, moi, j'étudie en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville, dans le but d'être maraîchère bio. Puis aussi, pour les agriculteurs, tantôt, vous demandiez qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agriculteur, pour se tourner vers ça. Puis, il y en a de plus en plus de moyens d'accompagnement avec des groupes conseils maintenant, avec des plein de programmes que tel Prime Vert au Québec qui donne beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand on est en biologique, on se fait rembourser jusqu'à 85 % de ces groupes conseils-là, de plein de technologies, biométhanisation pour eux qui font des productions laitières, de bovins. Donc, c'est très accessible. Par contre, je pense que les agriculteurs qui sont un peu dans la vieille école, qui n'ont pas nécessairement été aux études maintenant, qui ne sont pas au courant de ces changements-là, ben peut-être de leur dire justement à eux, de rendre ça populaire, que oui, il y en a des solutions concrètes qu'on peut maintenant avoir.
Ouais. C'est le président français Emmanuel Macron qui disait d'ailleurs il y a quelques mois, on a 5 ans, mais éventuellement on va passer à 3 ans. Dans les 3 prochaines années, il va falloir trouver des alternatives. J'ai Martin qui m'écrit, c'est un agriculteur, il dit, si on ne se sert plus du glyphosate pour contrôler les mauvaises herbes au champ, quelles sont les alternatives? La métribuzine, le métallachlore, le D4D, ou le biologique. Oui. Et voilà. C'est des bonnes questions. Les agriculteurs, je pense, sont ouverts à partir du moment où ça augmente pas non plus leur coût de production et où il y a des vraies alternatives. Bien Est-ce qu'il y en a en ce moment?
Il y en a des alternatives. Alors, d'abord, il faut rappeler quand même que vous, au Québec, comme en France, nous, en France, en tout cas, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 ans. Tous les 2 jours, pardon.
Tous les deux jours.
Donc, j'ai entendu hier... Au Québec aussi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont suicidés. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai malaise dans la profession, pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est aussi l'impasse dans laquelle ils sont avec ces produits chimiques qui ont montré leurs limites. Il y a de plus en plus de mauvaises herbes qui sont devenues résistantes, par exemple, au Roundup ou au glyphosate. Et donc, il faut utiliser de plus en plus de produits. Il y a beaucoup de malades dans les familles d'agriculteurs. Ouais. Ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'ils savent très bien de quoi je parle. Moi-même, je suis fille de paysan et j'ai vu les dégâts de ce modèle dans ma propre famille. Donc voilà. Alors les alternatives, bien sûr, elles existent. Moi, j'ai fait un film et un livre là-dessus qui s'appelait Les moissons du futur. Ouais. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit. Alors, mais on voit qu'on peut faire autrement, qu'on a les savoirs, mais là où.
C'est la volonté politique.
La volonté politique d'accompagner, là, c'était très juste ce qu'a dit Johanna, peut-être, je ne sais plus son prénom. Oui, on ne peut pas arrêter le glyphosate. Ça, je suis très claire là-dessus, du jour au lendemain. Si en même temps. On ne propose pas des mesures d'accompagnement pour sortir de ce modèle. Parce que la première chose qu'il faut faire, si on veut arrêter d'utiliser un herbicide comme le glyphosate, c'est qu'il faut arrêter les monocultures sur des centaines et des centaines d'hectares, parce que c'est ça qui apporte les problèmes, vous voyez. Et donc aller vers un système où il y a plus de biodiversité, où on mélange les cultures, etc. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, et on a besoin d'être accompagné. Donc il faut une volonté politique, mais on sait qu'on peut
y
arriver.
Et la transparence.
Oui.
De la transparence.
Ben oui, bien sûr.
Puis pourtant, je lis les étiquettes, je peux vous jure. Puis même en fin de semaine, je regardais un truc que je buvais. Je buvais c'est une espèce de smoothie ananas lait de coco que j'aime beaucoup. Puis malheureusement, en lisant l'étiquette, mon chum m'a dit, regarde ce que tu bois. Je suis sûre que, premier ingrédient, jus de pomme. Probablement chinois, oui. En plus, où 99 % des terres sont contaminées. Je l'ai jeté. Mais je me suis dit, ça se peut pas. Sur l'étiquette, il y avait un bel ananas, il y avait une belle noix de coco. Mais finalement, j'achetais du jus de pomme. Déjà, en commençant, si on pouvait nous dire la vérité quand on achète des produits, ça serait déjà la moindre des choses. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Monique Robin. Je dois dire que vous avez donné une conférence cette semaine. C'est ce mercredi à 18h à l'Agora Hydro-Québec de l'Université du Québec à Montréal. Il y aura Louise Vandelac qui va être là. Il y aura Alain Deneau également. Alain Deneau, bien sûr, c'est celui qui nous parle souvent de paradis fiscaux. On va sans doute parler des Monsanto Papers. Allez-y, on va se...
Il y a une avant-première du film aussi.
Oui, allez-y.
Qui va passer donc sur RDI en avril, mais déjà avant-première jeudi à 19h à l'amphithéâtre de l'Université TELUC, 5800 rue Saint-Denis.
Voilà.
11e étage, il faut... Voilà.
Vous allez être occupé cette semaine, mercredi, jeudi.
Oui, bien occupé.
Merci de nous faire prendre conscience de tout ça. Tout de suite après la pause, on reçoit Loulou Hughes. Restez là, tout le monde.